Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans l'Évangile selon Saint Luc, que je commente avec le Père de l'Église. Nous en sommes sur le polycopier à la page 18, donc c'est le polycopier qui contient le chapitre 6 à 10 de Saint Luc. Page 18, nous en sommes au chapitre 8 de Saint-Luc, versets 11 à 15. Donc c'est l'histoire du semeur qui va semer la graine qui va tomber soit sur le chemin, les oiseaux du ciel vont venir la manger ou la semence va être piétinée par les passants, soit la semence va tomber sur le côté du chemin dans un lieu où il n'y a pas assez de terre pour que la semence puisse germer, soit elle va tomber dans les épines, soit dans la bonne terre. Et on voit, c'est ça, je pense, au point le plus important, encore une fois, qu'il n'y a aucune égalité devant Dieu. Même pour la semence qui tombe dans la bonne terre, certains grains vont donner du 30%, certains du 60%, certains du 100%. Dieu crée les gens différents. Et donc, puisqu'il crée les gens différents, il ne va pas demander les mêmes choses à chacun d'entre nous. Certes, puisqu'il ne peut pas se contredire, Dieu, étant le créateur de tous les hommes, va demander à tous les hommes les mêmes choses sur un plan général. La loi naturelle s'applique ainsi à tous les hommes. Mais les grâces que Dieu donne à chaque âme étant différente, chaque âme étant différente par elle-même, Dieu va demander un retour sur son investissement, littéralement parlant, un retour qui va être différent selon ce qu'il a donné. Dieu ne peut pas nous demander l'impossible. Il ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a reçu que deux talents, une vingtaine de talents, en retour. Non, cela va dépendre justement de ce qu'il nous a donné. Alors, voyons un petit peu, je reprends le texte. Voici le sens de cette parabole, c'est les versets 11 à 15 du chapitre 8 de Saint-Luc. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui écoutent. Ensuite, le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et au moment de la tentation, ils se retirent. Ceux qui tombent parmi les épines, ce sont ceux qui ont écouté la parole et qui s'en vont et sont étouffés par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent pas de fruits. Et ceux qui tombent dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la patience. Donc nous avons déjà vu que les esprits mauvais, les démons qui volent dans l'air ou les hommes faux et astucieux qu'ils désignent sous le nom d'oiseaux, vient enlever la semence de leur esprit et leur font perdre le souvenir. Donc le démon va s'arranger pour que la semence n'ait pas le temps de germer. Parce que dès que la semence germe dans un cœur, les petites radicelles vont s'enfoncer dans le cœur et donc le démon aura beaucoup plus de mal à enlever cette semence du cœur de la personne en question. Et donc il va avoir tendance à essayer d'enlever la semence tout de suite, surtout ne pas laisser l'âme sous l'influence du bon esprit pendant longtemps parce que les bons sentiments vont alors germer dans cette âme. Donc le démon va tout faire pour empêcher, ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, le démon va tout faire pour enlever des fidèles la parole de Dieu de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. C'est là le drame, c'est que la volonté du bon Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Mais bien que le bon Dieu veuille de volonté antécédente sauver tous les hommes, de volonté conséquente, dit saint Thomas d'Aquin, il ne va sauver que ceux qui acceptent d'être aidés, qui acceptent de suivre la grâce du bon Dieu et de la mettre en pratique. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu qui la met en pratique. Donc les cœurs indociles sont impénétrables aux divins enseignements et aucune vertu ne peut y germer. C'est un chemin qui n'est fréquenté que par les esprits impurs. Donc ce chemin sur lequel tombe la racine ne peut supporter aucune semence. Dès que la semence tombe sur le chemin, la semence est immédiatement foulée aux pieds par les passants ou mangée par les oiseaux. Donc cela représente l'orgueil. Les cœurs indociles, impénétrables aux divins enseignements, c'est l'orgueil. L'orgueil empêche l'enseignement divin de pénétrer dans un cœur. Au contraire, l'humilité représente, si vous voulez, la charrue qui va passer dans ce cœur et transformer une terre inculte en une terre préparée à recevoir la bonne semence. Les cœurs indociles, c'est l'orgueil, va entraîner la fréquentation par les esprits impurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'orgueil empêche l'enseignement divin de fructifier dans cette âme, et donc l'âme va devenir une maison ouverte à tous les vents, et à ce moment-là, le démon de l'impureté va pouvoir rentrer dans cette âme, et avec les trois concupiscences des yeux, de la chair et de l'orgueil, tout détruire. Les pères expliquent aussi que la pierre sur laquelle peut tomber la semence est la figure des cœurs durs et indomptables. On trouve la même idée. Cœurs durs et indomptables, c'est les cœurs indociles, impénétrables aux divins enseignements à cause de leur orgueil. L'humidité est à la semence ce qu'est l'huile qui doit alimenter les lampes des vierges, représentant l'amour de la vertu et la persévérance dans le bien. L'humidité permet à la graine de commencer à se développer. Il ne faut pas simplement de la terre ne suffit pas, il faut aussi qu'il y ait suffisamment d'humidité pour que la graine puisse germer. Et donc il faut, c'est cette germination qui ne va pas se faire immédiatement, ça va prendre un certain temps avant que la semence puisse germer, mais cette semence qui germe représente d'après les pères la persévérance dans le bien. Donc il faut persévérer dans le bien pendant un certain temps pour que la grâce du bon Dieu puisse germer. Alors les épines, au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit lui-même, il donne déjà l'explication qui vont être après reprises par les pères. Les épines représentent donc les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie et empêchent justement la semence de porter du fruit. Donc de même que quand quelque chose grandit dans un buisson d'épines, plus cette chose grandit, plus les épines vont faire pression sur cette chose qui grandit, et plus la chose qui grandit va être pénétrée par ces épines. Eh bien, c'est la même chose, si vous voulez, pour nous. Lorsqu'une âme essaye de progresser, mais qu'elle est trop entourée par les choses matérielles de la vie, les choses matérielles, les richesses et les plaisirs de la vie, les sollicitudes du monde moderne vont empêcher cette âme de se développer. C'est comme, si vous voulez, les épines qui empêchent le développement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace vital pour que cette semence puisse se développer. C'est pour cela qu'on dit avec raison que il est plus difficile, c'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est plus difficile pour un riche de rentrer au ciel que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Parce que justement, les richesses dessèchent le cœur. Dessèchent le cœur. Et on le voit très bien aujourd'hui. Le monde moderne va, si vous voulez, couvrir les âmes modernes de choses matérielles pour qu'il n'y ait plus de place pour les choses spirituelles. Et la première chose qu'il faut faire pour se mettre au service du bon Dieu, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Si je continue de garder un amour désordonné pour les choses de ce monde, il n'y a plus de place pour le bon Dieu et donc je ne peux pas me convertir. Donc les sollicitudes de la vie présente, disent les pères, ne permettent pas à la semence spirituelle de croître et de fructifier. C'est pour cela que pour que la semence puisse fructifier normalement, il va falloir déjà l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. ces conseils évangéliques permettent à la semence de se développer avec plus de facilité. Il n'en est pas de même dans les choses spirituelles, car la pierre peut devenir une terre fertile, le chemin peut n'être plus foulé aux pieds, il est possible d'arracher des épines. Il ne faut pas se décourager, même si mon arbre, pendant des années et des années, a beaucoup plus ressemblé à un chemin par lequel tout le monde passait, ou à un fossé rempli d'épines ou de pierres, eh bien, le bon Dieu peut convertir ces choses-là. Il peut transformer un chemin en terre cultivable, il peut transformer, arracher les épines qui sont dans le fossé sur le long du chemin et rendre ce fossé vivable pour la semence. Pourquoi? Parce que bon Dieu peut faire des miracles. Donc le chemin peut n'être plus foulé aux pieds, il est possible d'arracher les épines, il ne faut jamais, jamais se décourager. Souvent, on entend ça de gens qui ont quitté le bon Dieu pendant très longtemps. Vous avez l'abus, pour moi, c'est trop tard, j'ai fait trop de bêtises. Non, à tout péché, miséricorde. À tout péché, miséricorde. Rappelez-vous les ouvriers de dernière heure. Les ouvriers de dernière heure, ils sont toujours acceptés. À ce propos, je voudrais vous citer un texte magnifique de Saint Jean Chrysostome. Je ne me rappelle plus si j'ai déjà cité dans d'autres conférences de commentaires des Pères de l'Église, mais ce texte est magnifique. J'utilise en fin de retraite, quand je prêche l'exercice Saint-Ignace, comme lecture à table, tout à fait à la fin, au dernier petit déjeuner avant le repas de clôture. Voilà ce que disait il y a 1600 ans Saint Jean Chrysostome, un des plus grands prédicateurs que la Terre ait jamais porté, un grand docteur de l'Église sur ce sujet. Si un homme est dévot et aime Dieu, qu'il participe à cette magnifique fête de Pâques. S'il fut un serviteur fidèle, qu'il entre dans la joie de son Seigneur. S'il a longtemps travaillé dans le jeûne, qu'il reçoive maintenant sa récompense. S'il a ployé sous le fardeau depuis la première heure, qu'il obtienne aujourd'hui ce qui lui est dû en justice. Et s'il est arrivé à la troisième heure, qu'il garde néanmoins avec action de grâce son cœur à la fête. S'il ne s'est présenté qu'à la sixième heure, qu'il n'ait aucun doute, rien ne lui sera ôté. S'il a attendu la neuvième heure, qu'il s'approche cependant sans crainte. S'il a traîné jusqu'à la onzième heure, qu'il ne s'alarme pas de son retard, car le Seigneur, qui est jaloux de son honneur, acceptera le dernier comme le premier, et donnera à l'un comme à l'autre. Il accepte les œuvres et reconnaît les intentions. Il honore les actes et loue les offrandes. Et s'il a donné le repos à l'ouvrier de la première heure, il l'accordera également à celui qui n'est arrivé qu'à la onzième. Entrez donc tous dans la joie de votre Seigneur et recevez votre récompense, les premiers comme les derniers. Riches et pauvres, tous ensemble, réjouissez-vous. Vous qui veillez et vous qui étiez inattentifs, soyez dans l'allégresse. Soyez dans la joie, vous qui avez jeûné et vous qui avez oublié le jeûne. La table est toute garnie, festoyez somptueusement. Le veau gras est tué, que personne ne reste sur sa faim et que tous participent avec joie à cette fête de la foi. Recevez tous les riches et tous les richesses de la charité aimante. Que personne ne craigne sa pauvreté, car le royaume vous est donné. Ne pleurez plus vos iniquités, car le pardon a été accordé au du tombeau. Que personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a tous libérés. Celui qui en était prisonnier l'a détruite, en descendant aux enfers, il en est devenu le maître. Déjà, le prophète Isaïe, en prédisant ce jour, avait pleuré de joie. L'enfer grince des dents car son pouvoir est détruit. Il rugit car il est couvert de chaînes. Il trépigne de rage car il vous a vu triomphant dans la région des pleurs. Il avait pris une apparence corporelle mais a vu Dieu face à face. Il croyait avoir détruit la terre mais il trouva le ciel devant lui. Il avait conquis ce qui peut être vu mais tomba devant l'invisible. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? Le Christ est ressuscité, tu as été renversé, les démons sont tombés, les anges se réjouissent. La vie règne et pas un mort ne demeure dans la tombe, car le Christ s'étant levé d'entre les morts est devenu le premier fruit de ceux à qui s'étaient endormis. À lui, la gloire et la puissance dans tous les siècles des siècles. C'est un texte magnifique qui montre bien que, quel que soit le temps de notre conversion, Dieu, dans sa miséricorde, accorde des grâces extraordinaires, même à l'ouvrier de la dernière heure. C'est ça qu'il ne faut pas se décourager, même si j'ai vécu loin du bon Dieu pendant des années et des années, même si j'ai fait beaucoup de mauvaises choses dans ma vie, eh bien, ne pas se décourager parce que Dieu pardonne aux pécheurs repentants. On n'arrête pas de parler du pardon aujourd'hui. On oublie que Dieu ne pardonne pas sans condition. On entend des imbécilités épouvantables. Aujourd'hui, juste après les derniers attentats en France, je fais cette conférence le 3 novembre 2020. Il y a encore eu des tas d'attentats en France, à Vienne, en Autriche. C'est lamentable d'entendre tous ces pseudo-évêques modernes après l'attentat à Nice où un musulman a tué 3 personnes dans une église. C'est lamentable d'entendre ces évêques, ces faux évêques, ces évêques de l'église de Vatican II parler « il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, prions avec les musulmans, prions ensemble pour pardonner ». Mais ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas expliquer qu'on pardonne à celui qui regrette. Donc, à quelqu'un qui vient d'assassiner 3 ou 4 personnes, c'est la question qu'il faut lui poser. Est-ce que vous regrettez votre geste? Et le musulman va vous dire non, il n'a aucun regret. Au contraire, il estime qu'il fait son devoir en assassinant les infidèles. Et donc, s'il n'y a pas de regret du péché commis, il ne faut pas pardonner. Une maman serait d'une faiblesse invraisemblable si elle pardonnait à son enfant qui continue de l'offenser. On pardonne à condition que l'enfant regrette. Même si l'enfant risque de recommencer, du moment qu'il regrette vraiment d'avoir offensé sa mère, qu'il demande pardon, à ce moment-là on pardonne, bien sûr. Mais on ne pardonne pas si l'enfant regrette rien du tout et continue d'avoir l'intention d'offenser sa mère. Vous voyez, c'est des choses importantes à bien comprendre. C'est ce que veulent dire les pierres en disant qu'une pierre, ce que veulent dire les pères en expliquant que la pierre peut devenir une terre fertile, le chemin peut ne plus fouler aux pieds, il est possible d'arracher des épines. Si on peut transformer une pierre en terre fort fertile, à ce moment-là, toutes les âmes peuvent être converties. Notre Seigneur Jésus-Christ est suffisamment puissant pour changer une pierre en pain. Pas oublier ça. La terre riche et fertile, dont parle notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le verset 15, ceux qui tombent dans la bonne terre sont ceux qui, écoutant, ayant écouté la parole avec un cœur bon et excellent, la retiennent et portent du fruit par la pénitence. Donc, la terre riche et fertile, disent les pères, sont les âmes bonnes et vertueuses qui reçoivent dans leur profondeur la semence de la parole. Donc, plus le sillon est profond, plus la semence sera protégée. Et bien, ce sillon profond représente la vertu d'humilité. La pierre représentait l'orgueil, le sillon représente l'humilité. Donc, ces âmes bonnes et vertueuses qui reçoivent dans leur profondeur la semence de la parole représentent les âmes qui sont humbles. Et cette humilité va protéger la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, la grâce du bon Dieu, des atteintes extérieures. Et le démon ne va rien pouvoir faire parce que la graine, la semence, la grâce de Dieu sera recouverte par la terre et enfouie sous le sillon, dans le sillon. Donc ce fruit qui va donner au centuple, c'est le fruit dans sa perfection, car le nombre 10 exprime toujours la perfection, disent les pères. Parce que l'accomplissement de la loi consiste dans l'accomplissement des 10 commandements. Mais le nombre 10 multiplié par lui-même produit le nombre 100, qui est ainsi le symbole de la plus grande perfection possible. Pour cela que dans d'autres textes parallèles, il est dit que la semence qui tombe dans la bonne terre va donner du fruit à 60, 80 ou 100%. Et donc ça c'est multiplié à des multiplications du nombre 10 qui représentent le minimum. Le minimum c'est les 10 commandements du bon Dieu. Rappelez-vous Abraham, on retrouve exactement le même symbole avec Abraham qui est sur le bord de sa tente à la chaleur du jour pour faire l'hospitalité et qui reçoit les 3 anges qui sont envoyés par Dieu pour détruire les 2 villes de Sodome et Gomorre à cause du péché contre nature, d'homosexualité, ces 2 villes. Et Abraham va essayer d'obtenir le salut de ces 2 villes en expliquant, mais que va-t-il se passer s'il n'y a que 50 justes, ou 40 justes, ou 30 justes, ou 20 justes, ou 10 justes dans ces villes. Et à chaque fois, les anges vont répondre, s'il y a une vingtaine de justes encore dans la ville, on sauvera la ville, on ne détruira pas la ville. Et pourquoi Abraham s'arrête-t-il à ce nombre de 10? Parce que le nombre 10 représente le minimum pour se sauver. Le minimum pour se sauver, c'est de remplir les 10 commandements de Dieu. Alors, les pères se posent la question de savoir quelles sont les causes de destruction de la semence. La semence, c'est la grâce du bon Dieu. Comment la semence peut-elle être détruite? Alors, voilà ce qu'ils disent. C'est en bas de la page 18. Trois raisons qui sont données par les pères. Il y a pour la semence qui est jetée dans nos âmes trois causes de destruction. D'abord, première cause, les uns détruisent cette semence en prêtant une oreille trop légère au discours des hommes qui ne veulent que les tromper. Évidemment, si vous écoutez les discours des ennemis de l'Église, vous allez être trompé. C'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé dans le monde moderne. Les gens se font tromper par les sirènes du gouvernement, par les sirènes des ennemis de l'Église, mais on a vraiment l'impression qu'ils veulent se faire tromper, qu'ils font tout pour être trompés. Regardez par exemple, ça a beaucoup frappé ça, le nombre par exemple, de professeurs dans les écoles modernes qui sont très opposés à l'Église catholique, qui vont enseigner la haine de l'Église catholique à leurs élèves en disant que l'Église catholique, c'est les bûchers de l'Inquisition, c'est la croisade, c'est la condamnation de Galilée, etc., etc., toutes ces bêtises qu'on entend régulièrement. Ce qui me frappe le plus, c'est que quand on pose la question à ces professeurs en disant, mais vous n'arrêtez pas de critiquer l'Église. Vous avez beaucoup lu sur l'Église? Ah oui, vont-ils nous dire, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur l'Église catholique. Et j'ai dit, tous les livres que vous avez lus sur l'Église catholique étaient tous écrits, n'est-ce pas, par des ennemis de l'Église. Est-ce que vous avez lu un seul livre qui traite de la question, écrit par un admirateur de l'Église catholique? Est-ce que vous avez lu un seul livre en faveur de l'Inquisition? Est-ce que vous avez lu un seul livre en faveur des croisades, par exemple? Et ils sont obligés de nous avouer non, parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas entendre des choses en faveur de l'Église, parce que j'ai une telle haine de l'Église que je ne veux pas entendre quoi que ce soit en sa faveur. Les Américains avaient une expression terrible. Ils disaient My mind is made up, don't confuse me with facts. Ça veut dire j'ai déjà décidé dans mon esprit, venez pas me faire changer, essayez de me faire changer d'avis avec des faits. C'est la même chose pour tout. Prenez, je donne un autre exemple. Prenez l'exemple de quelqu'un qui veut étudier, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. Il va étudier honnêtement ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tenants, les aboutissants du Deuxième Conflit mondial, et qui n'étudierait que des auteurs qui sont, par exemple, pour les Alliés, c'est-à-dire pour Staline, pour Roosevelt, pour De Gaulle, pour Churchill, et pour tous ceux qui ont fait massacrer des millions et des millions de personnes. Rien que Staline, à lui tout seul, il a massacré combien? 40 millions de personnes? Et donc, imaginez quelqu'un qui veuille avoir une idée réelle de ce qui s'est passé au deuxième conflit mondial, qui n'étudie que des livres écrits par des gens qui soutiennent un côté du conflit, le côté par exemple des Alliés, et qui refuse catégoriquement de lire quoi que ce soit écrit par des gens qui soutiennent l'autre côté du conflit. Eh bien, cette personne ne pourra jamais avoir une idée claire des choses parce qu'il n'entend qu'un seul son de cloche. C'est du bon sens élémentaire que pour, avant de juger une situation, on écoute les deux sons de cloche. C'est ça le drame aujourd'hui. C'est le drame au niveau de l'Église catholique, contre l'Église catholique, pour les ennemis de l'Église catholique, qui refusent toujours d'entendre les deux sons de cloche, qui refusent soigneusement d'entendre le son de cloche en faveur de l'Église. Et c'est le drame aussi en matière d'histoire par tous ces pseudo-historiens qui ne veulent jamais entendre le moindre raisonnement en faveur de l'autre son de cloche sur le conflit. Et donc, ils sont incapables de juger correctement. Donc, il faut faire attention à ça, vous voyez, ne pas prêter une oreille trop légère, disent les pères de l'Église, au discours des hommes. Parce que si je ne fais pas attention, justement, d'entendre les deux sons de cloche avant de commencer à juger, ben, je vais me faire rouler. Donc, deuxième raison pour laquelle les âmes sont prônes à la destruction, deuxième raison pour laquelle la semence qui est jetée dans nos âmes peut être détruite, c'est que d'autres ne reçoivent cette parole qu'à la surface de leur âme et la laissent se dessécher, périr aux premières atteintes de l'adversité. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, beaucoup de gens veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand tout va bien. On veut bien prier qu'on ait son tout, tout aille bien. On veut bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand la vie est facile. Et puis dès qu'il y a un petit problème, tout de suite, il n'y a plus personne pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième cause de la destruction de la semence jetée dans nos âmes, disent les pères en haut de la page 19. D'autres enfin, disent les pères, étouffent la semence qu'ils ont reçue dans les soucis des richesses et des plaisirs qui sont comme autant d'épines qui étouffent la semence, déchirant l'âme par les pointes acérées de la préoccupation et lorsqu'elles entraînent jusqu'au péché, elles font des blessures sanglantes. Ça, c'est un point très important, vous voyez. C'est que les soucis des richesses et des plaisirs font que les gens sont incapables de s'occuper des choses importantes. On le voit très bien dans le monde moderne, comment le monde moderne va chercher à couvrir les âmes de biens matériels pour les empêcher de penser au bien surnaturel. Donc pour eux, tout s'arrête au trou du cimetière parce qu'ils n'ont jamais pensé qu'il y avait une vie après la mort. Et donc plus les gens sont dans les richesses, dans les plaisirs qui sont entraînés par ces richesses, mais plus ils sont étouffés comme autant d'épines, étouffés, la semence de la grâce va être étouffée et qui va déchirer l'âme de telle façon que l'âme ne puisse plus se sortir du péché. Quand vous êtes dans un buisson d'épines, si vous cherchez à quitter le buisson d'épines, plus vous cherchez à quitter le buisson d'épines, plus les épines rentrent dans vos chairs. Et donc, on voit très bien que la première condition, lorsqu'on est soumis au service du bon Dieu, première condition, c'est d'arrêter d'aimer les choses de ce monde. Si je continue d'aimer les choses de ce monde, je ne pourrai pas me sortir de cette attraction, de ce cercle infernal qui m'entraîne vers les plaisirs et les richesses de ce monde. Donc, la première condition pour se couper de ces richesses, c'est l'esprit de pauvreté. Il faut commencer par se couper de la concupiscence des yeux par l'esprit de pauvreté, de même qu'il faut se couper de la concupiscence de la chair par l'esprit de chasteté et se couper de l'orgueil du monde moderne par l'esprit d'obéissance. Sans ces trois conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, on ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète cette phrase qui me semble très importante. D'autres enfin étouffent la semence qu'ils ont reçue dans les soucis des richesses et des plaisirs qui sont comme autant d'épines qui étouffent la semence, déchirant l'âme par les pointes acérées de la préoccupation et lorsqu'elles entraînent jusqu'au péché, elles font des blessures sanglantes. Donc se sortir des préoccupations superficielles pour s'occuper des préoccupations importantes. Et alors on quitte la voie du bien, les uns par leur négligence à écouter la parole de Dieu, les autres par immortification, par faiblesse, d'autres enfin, même parce qu'ils se rendent esclaves de la volupté et des biens de ce monde. On retrouve exactement les mêmes idées. L'immortification entraîne l'impossibilité de se convertir. Pourquoi le monde moderne, les gens du monde moderne ont un mal fou à se convertir? Parce qu'ils veulent bien se convertir à condition que ça ne leur coûte rien. La condition de ne pas avoir à se mortifier. C'est pour cela que les pères de l'Église disaient avec raison que quand quelqu'un veut se convertir, qu'il commence par pratiquer les trois grandes pénitences que les anciens pratiquaient avec tant de zèle, à savoir la prière, bien sûr, mais aussi le jeûne et l'aumône. Pourquoi ces trois pénitences? Bien, tout simplement parce que la prière s'oppose à l'orgueil, l'aumône s'oppose à la concupiscence des yeux, et le jeûne va s'opposer à la concupiscence de la chair. Et c'est triste parfois d'avoir des gens qui vont se plaindre, par exemple, c'est un exemple que je donne, le confessionnal, qui vont se plaindre d'avoir beaucoup, beaucoup de tentations contre la pureté, par exemple. Et puis quand je leur dis, mais pour lutter contre ces tentations, commencez par prendre les moyens traditionnels. Jeûner. Prenez donc ça comme pénitence, de supprimer le repas du soir pendant quelques jours, et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de tentations d'impureté. Ah non, ça je veux pas, parce que moi j'aime bien manger. Et ils veulent pas. Bon, des gens qui sont beaucoup trop matérialistes, qui ne veulent pas faire un peu l'aumône pour essayer de se couper de ce pouvoir d'attraction des richesses. Ou des gens qui veulent bien lutter contre l'orgueil, mais qui ne veulent pas prier pour ça, ils n'obtiennent rien du tout. Un autre exemple que je peux donner, imaginez une jeune fille qui est très coquette, qui est trop coquette, qui est trop sensuelle, qui s'en rend compte et qui veut essayer de lutter contre. Bien, quel conseil le prêtre va lui donner au confessionnal? C'est de commencer par vous couper des choses qui vous poussent à cette vie superficielle. Par exemple, essayez de passer une journée complète sans cosmétique, essayez d'aller un jour à votre faire vos occupations dans la journée sans vous passer une demi-heure devant votre miroir pour vous pomponner les joues, les lèvres et vous mettre des cosmétiques de tous les côtés, hein, littéralement à la truelle. Non, c'est pas ce que demande le bon Dieu. Pour pouvoir se couper des choses de ce monde, il faut arrêter d'aimer ces choses de ce monde, donc de pratiquer l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance, sinon rien ne peut être obtenu. Donc, ceux qui se rendent esclaves de la volupté et des biens de ce monde, eh bien, vont devenir négligents, écouter la parole du bon Dieu, et donc font. La semence de la grâce va tomber sur la pierre, va tomber au milieu des épines, rien ne pourra être obtenu. Nous avançons à la page 19, versets 16, 17 et 18 du chapitre 8 de Saint-Luc. Personne, dit notre Seigneur, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un candélabre afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne soit manifesté, ni rien de secret qui ne soit connu et ne vienne au grand jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car celui qui a, à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Alors voyons un petit peu l'explication des pères sur ces versets, un petit peu compliqués. Donc, notre Seigneur parle d'une lampe qui est allumée et qui est couverte d'un vase, qui est cachée sous un lit. Donc le vase et le lit, disent les pères, on est à la page 19 sur le polycopier au milieu de la page, le vase et le lit signifient la chair, de même que la lampe est le symbole de la parole. Donc celui qui cache la parole par crainte de quelques dommages temporels préfère la chair à la manifestation de la vérité, et celui qui tremble d'annoncer cette parole la couvre, pour ainsi dire, avec la chair. Et donc, il faut que la lumière de la grâce soit libre. Il faut que la lumière de la grâce puisse être vue de tout le monde, sinon personne ne va se convertir. Vous voyez, c'est le drame du monde moderne où les prêtres catholiques, ou qui se présentent encore comme tels, dans l'église de Vatican II, c'est clair et net, et ces faux prêtres n'osent plus présenter notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils se rendent compte que ça ne passe plus. Hein. Sous prétexte que ça passe plus, il faut plus donner la vérité aux gens. C'est pas parce que les gens ne veulent plus guérir que ça veut dire qu'il faut arrêter de donner les bonnes explications pour que les gens soient guéris. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par le salut de leur âme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut arrêter la prédication. Il faut continuer de prêcher. Même si c'est à temps et à contre-temps, saint Paul nous avertit, prêche à temps et à contre-temps. Il le dit très bien dans l'épître de saint Paul à Timothée. Voilà ce que nous dit saint Paul. C'est l'épître qui a été choisi pour la messe d'un docteur pour l'Église. Prêche la parole. Presse les hommes à temps et à contre-temps, reprend, supplie, menace, en toute patience et sans cesser jamais de les instruire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais dans leur démangeaison d'entendre ce qui les flatte, ils se donneront des maîtres selon leurs désirs et détourneront l'oreille de la vérité pour l'ouvrir à des fables. Mais toi, veille, travaille sans relâche, fais ton œuvre de prédicateur de l'Évangile, remplis ton ministère, sois sobre. Car pour moi, je suis sur le point d'être sacrifié et le moment de ma mort approche. J'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Et donc, il faut avoir le courage, encore une fois, de prêcher la vérité, même si ça passe plus. Hein. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a lui-même a vu les conséquences de sa prédication au moment où il a commencé à vouloir expliquer à ses disciples ce qu'était la Sainte Eucharistie. L'évangile dit que beaucoup commencèrent à s'éloigner de lui, À tel point que notre Seigneur Jésus-Christ va parler avec Saint Pierre en lui disant, et vous, vous allez partir aussi? Vous allez me quitter? Et Saint Pierre a eu cette réponse magnifique, où irions-nous, Seigneur? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Bien, puisque nous sommes convaincus que notre Seigneur Jésus-Christ a les paroles de la vie éternelle, à nous justement de les utiliser, ces paroles, pour sauver notre âme. Donc, alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église sur ce sujet. Celui qui consacre son corps au ministère, cette divine parole, place la lumière sur le chandelier, de manière que la prédication de la vérité domine toutes les exigences de la servitude du corps. On est dans un monde de fous aujourd'hui. Les gens ont perdu le nord. Ils ont perdu la lumière. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde. Il est la porte du ciel. Il est la lumière du monde. Alors les gens sont complètement perdus parce qu'ils ont perdu le cap. Ils savent plus où aller. Ils sont dans une forêt complètement perdue. Ils voient plus rien. Ils savent plus où aller. Mais imaginez quelqu'un, un catholique, qui a une petite lampe, toute petite lampe, petite bougie, c'est tout. Mais dans la nuit la plus profonde, une toute petite lampe, tout de suite, ça attire les foules. Les gens vont venir. Ah lui, il a de la lumière. Il va nous dire où il faut aller. Vous voyez, et on ne se rend pas compte du privilège de la lumière. La lumière du monde, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je presse la lumière, les gens qui sont complètement perdus, au moins certains d'entre eux vont être attirés par cette lumière. Malheureusement, aujourd'hui, avec la loi naturelle qui saute de plus en plus, les gens modernes sont de moins en moins attirés vers la lumière. Et ça ne fait rien, il faut qu'on continue de prêcher, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Donc celui qui consacre son corps au ministère de cette divine parole place la lumière sur le chandelier. Par la lampe, disent les pères, on voit la figure des disciples plus parfaits de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les disciples sont plus proches de la lumière et donc vont réfléchir davantage cette lumière de la vérité. L'âme, si vous voulez, est un petit peu comme un miroir. Mais si le miroir est très proche de la lumière, de la source lumineuse, le miroir va réfléchir beaucoup plus de lumière que si la lumière est très loin de ce miroir. Imaginez, vous tenez une bougie devant à 3 mètres d'un miroir, il n'y a pratiquement rien, aucune lumière qui va se refléter sur la face du miroir. Mais si au contraire vous maintenez la bougie à quelques centimètres du miroir, le miroir va réfléchir beaucoup plus de quantité de lumière à cause de cela. Donc cette lampe représente les disciples plus parfaits de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut donc placer cette lumière sur le chandelier, c'est-à-dire sur toute l'Église. Donc cette lumière qui brille sur le chandelier représente la prédication de l'Église catholique. La prédication de l'Église catholique est évidemment incompatible avec la prédication du monde moderne. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est déformé par les trois mensonges de la République, liberté, égalité, fraternité, comment voulez-vous que quelqu'un qui est imprégné de ces faux principes maçonniques de liberté, d'égalité, de fraternité, puisse rechercher la lumière? C'est impossible. Il faut commencer par lui enlever ces faux principes de la cervelle. C'est ça qui est difficile. Au lieu de liberté, il va falloir lui parler d'obéissance. Au lieu d'égalité, il va falloir lui parler de justice. Au lieu de fraternité, il va falloir lui parler de charité. Le problème, c'est que quand vous parlez d'obéissance, de justice et de charité à quelqu'un qui a avalé du liberté, égalité, fraternité à longueur de journée pendant des années, des années, des années, il ne comprend pas. On parle, c'est comme si on lui parlait hébreu. Et c'est pour ça que les gens sont tellement malheureux dans le monde moderne. Ils sont malheureux parce que ils ont complètement perdu leur vue surnaturelle. Pour eux, tout s'arrête au trou du cimetière. Alors si effectivement tout s'arrête au trou du cimetière, bon, alors je veux bien croire qu'il faut profiter de la vie au maximum. Le problème, c'est que le trou du cimetière, c'est pas une fin de vie, c'est un début de vie. La mort, c'est l'obligation de tomber dans une éternité. Soit l'éternité de bonheur, soit l'éternité de malheur. Donc, semblable à la lumière d'une lampe, Jésus-Christ est retenu par l'intermédiaire de son âme dans la terre de sa chair, comme la lumière est retenue par la mèche dans le vase de terre d'une lampe. Les pères de l'Église qui ont fait des grands commentaires sur cette lampe à huile. Et évidemment, pour nous, ça ne veut plus dire grand-chose parce que la lampe à huile a pratiquement disparu, mais au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, la lampe, c'était quelque chose de très important. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et donc, la lampe à huile était quelque chose. Et cette lampe représente, est un symbole, si vous voulez, de la vie divine en nous. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ va souvent, les apôtres vont souvent prendre cet exemple de la lampe de terre qui éclaire. Pourtant, la lampe d'argile faite en argile cuite au four est extrêmement fragile, la fait tomber, elle éclate en mille morceaux, on ne peut plus rien en faire. Bon, et dans cette lampe, qu'est-ce qu'il faut? On met de l'huile et une mèche qui va sortir par le petit bec de la lampe. Et donc, il faut une lampe, il faut l'huile, et il faut la mèche, et il faut la lumière. Et pour que la lumière puisse brûler, que la mèche puisse s'enflammer, il faut que la mèche trempe dans l'huile. Et s'il n'y a pas d'huile dans la lampe, eh bien, vous pouvez toujours essayer d'allumer votre mèche, hein, qui va brûler. Donc, il faut les trois choses. Il faut le réceptacle, il faut l'huile, il faut la mèche, et à ce moment-là, la lumière va pouvoir jaillir. Eh bien, les pères expliquent que c'est le symbole de toute la foi catholique. La foi, l'espérance et la charité sont là. Donc, la foi, c'est la lampe elle-même, le corps de la lampe. L'espérance, c'est l'huile. Et la charité, c'est la lumière. Et certains pères font même remarquer que la mèche est formée de plusieurs torons. Quatre torons qui sont tressés ensemble, bien serrés, pour former une mèche qui ne va pas se corrompre par la flamme, mais qui va au contraire alimenter la flamme par l'intermédiaire de l'huile. Et donc ils disent que les quatre torons représentent les quatre vertus cardinales, de prudence, de justice, force et de tempérance. Et donc à ce moment-là, lampe à huile représentait pour les anciens le symbole de toutes les grandes vertus chrétiennes, foi, espérance, charité, les grandes vertus théologales, et prudence, justice, force et tempérance, les grandes vertus cardinales. Donc foi pour croire, espérance pour prier, charité pour obéir à la loi du bon Dieu, et ensuite les quatre grandes vertus cardinales pour lutter contre les conséquences du péché originel en nous. Donc la prudence contre l'ignorance, la justice contre la malice, pardon, la force contre la faiblesse, et la tempérance contre la concupiscence. Donc, prenons garde de bien garder notre lampe à huile toujours en état de fonctionnement, hein, parce que notre Seigneur Jésus-Christ a prévenu qu'il viendrait comme un voleur. Et s'il vient au milieu de la nuit et qu'il trouve que la personne qui vient chercher n'est pas en position de garde, de veille, eh bien, on va se retrouver avec des gros problèmes. Donc, le chandelier, disent les pères, c'est l'Église elle-même, sur laquelle la parole divine brille de tout son éclat. C'est pour ça que notre Seigneur dit que après avoir allumé la lampe, on va placer la lampe sur un candélabre, et la candélabre va être placée de façon élevée sur une table pour que tout le monde puisse voir la lumière. Donc c'est le symbole de l'Église catholique qui va manifester la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Alors avançons avec les versets 19, 20 et 21 du chapitre 8 de Saint-Luc, en bas de la page 19, sur le polycopier. Cependant, sa mère et ses frères vinrent auprès de lui et ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. On l'en avertit, votre mère et vos frères sont dehors et veulent vous voir. Cependant, il leur dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la pratiquent. Alors attention tout de suite, répondre à une objection qui est très utilisée par les témoins de Jéhovah, les protestants, qui parle des frères de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc les gens vont vous dire, ces ennemis de l'Église vont vous dire donc, notre Sainte Vierge Marie a eu d'autres enfants après notre Seigneur Jésus-Christ, mais le mot frère a toujours représenté pour les Hébreux, a eu toujours un sens beaucoup plus large. Les frères, c'est pas simplement les membres directs de la famille, les frères, c'est aussi tous les membres éloignés de la famille, donc les oncles, les tantes, les membres éloignés de la famille sont appelés frères. Il y a certains musulmans qui utilisent tout le temps ce terme, frère. Alors voilà ce que disent les pères de l'Église en commentaire à cette partie de l'Évangile. Par un effet de son amour, le Christ a daigné s'unir notre chair, notre sang, et est devenu notre frère, lui qui était Dieu par nature. L'union des âmes est plus auguste que les liens de la chair et du sang. Il faut savoir sacrifier les exigences du sang à l'accomplissement des devoirs célestes. Notre Seigneur Jésus-Christ passe avant. Donc c'est ce que veut dire notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? Ma mère et mon frère, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la pratiquent. C'est-à-dire, l'obéissance à Dieu passe avant l'obéissance aux hommes. Donc ceux qui pratiquent la parole de Dieu l'engendrent dans le cœur du prochain et ils méritent également d'être appelés ses frères parce qu'ils font aussi la volonté de son Père qui est dans les cieux. Si un homme d'une condition obscure écoute la parole de Dieu, il le regarde comme son frère. Et donc la grandeur d'un homme devant Dieu va dépendre de sa capacité à répondre à la grâce. Des hommes qui sont de conditions naturelles très obscures, qui vont devenir des très grands saints parce qu'ils ont répondu de façon extraordinaire à la grâce du bon Dieu. Au contraire, des gens qui sont de nature humainement parlant très élevés, eh bien, vont être considérés comme des moins que rien par Dieu parce qu'ils ont toujours refusé la grâce du bon Dieu. Donc, mystiquement, celui qui cherche Jésus-Christ ne doit pas se tenir dehors. Les parents de Jésus sont la figure des Juifs. Le Sauveur nous apprend la préférence donnée à l'Église sur la synagogue. Donc, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent représentent l'Église catholique qui est en germe et qui commence à apparaître à la face du monde avec la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui négligent de s'appliquer au sens spirituel ces paroles ne peuvent entrer. Ils veulent, pour ainsi dire, contraindre Jésus-Christ à sortir pour leur enseigner une doctrine toute humaine plutôt que de consentir à entrer eux-mêmes pour recevoir des enseignements tous spirituels. Le problème, c'est quand on veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il faut commencer par mettre sa volonté propre dans la poche et que le mouchoir porte dessus. On ne peut pas suivre notre Seigneur Jésus-Christ si je veux conserver ma volonté propre. Il y a un combat terrible en nous, c'est mettre dehors la volonté propre et mettre à la place de notre volonté propre la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ en nous et pouvoir dire à notre Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Alors, nous sommes à la page 20, nous avançons dans le chapitre 8, versets 22 à 25, page 20 sur le polycopier. Alors, il arriva qu'un de ces jours, Jésus monta sur une barque avec ses disciples, et il leur dit « Passons de l'autre côté du lac », et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, ils s'endormirent. Un tourbillon de vent fondit sur le lac, et la barque se remplissait d'eau, ils étaient en péril. S'approchant donc, ils l'éveillèrent en disant « Maître, nous périssons ». Mais lui s'étant levé, menaça le vent et les flots agités, ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il leur dit « Où est votre foi ?» Mais eux, remplis de crainte et d'admiration, se disaient l'un à l'autre « Quel est donc celui-ci qui commande au vent et à la mer et ils lui obéissent ? » Là, c'est un passage magnifique de l'Évangile qui s'adapte tout à fait à notre situation actuelle. Nous aussi, on est un peu dans la barque avec les disciples. Cette barque représente l'Église. Il y a un tourbillon de vent terrible qui fond sur le lac. Le lac de ce monde et la barque qui se remplit d'eau et on est en péril. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il est au milieu de la barque, au fond de la barque, il dort, la tête sur un coussin. Alors, on ne comprend pas comment, mais il y a une tempête terrible, il y a du vent terrible, il y a des énormes vagues, les voiles se déchirent, on n'a plus aucun contrôle de la barque, il y a de l'eau qui passe partout, par-dessus bord, on va couler. Et qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Il dort. Eh bien, ceci doit être une leçon terrible pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ dort, mais il est dans la barque. Et tant qu'il est dans la barque, on n'a pas à craindre. Alors pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dort? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait-il semblant de dormir? C'est ça le mystère. Notre Seigneur Jésus-Christ est dans la barque, mais il veut nous obliger à ne pas nous confier en nos propres forces, mais nous confier en ses forces. C'est pour ça qu'il attend le moment où pratiquement la barque va couler pour commencer à se lever, se réveiller, donc se lever et menacer le vent et les flots, et tout s'apaisa. On voudrait que notre Seigneur Jésus-Christ se réveilla de sa sieste spirituelle immédiatement à nos ordres. Seigneur, réveillez-vous. Que notre Seigneur soit notre service. C'est lui qui commande, c'est pas nous. Donc la sieste de notre Seigneur Jésus-Christ, elle durera le temps qu'il a voulu, le temps qu'il a choisi. C'est exactement ce qui se passe actuellement. On pourrait se dire aussi, mais qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi dort-il alors que tout s'écoule de tous côtés? De ce Bergoglio qui sort une hérésie par jour à peu près maintenant, comment se fait-il que notre Seigneur Jésus-Christ ne fasse rien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il n'est plus Dieu? Bien sûr qu'il est Dieu. Seulement il a décidé de dormir pour nous montrer, nous apprendre à compter sur lui, pas à compter sur nous. Donc les apôtres connaissent qu'ils n'ont plus d'espoir de salut que dans le Seigneur des vertus et se déterminent à l'éveiller. Ce n'est point la tentation, mais la faiblesse de l'âme qui produit la crainte, car les tentations éprouvent la foi comme le feu éprouve l'homme, éprouve l'or. Donc la crainte n'est pas bonne, surtout si c'est une crainte servile, une crainte humaine. La crainte qu'il nous faut demander, c'est la crainte, le don de crainte de Dieu. Attention, le don de crainte de Dieu ne consiste pas à avoir peur de Dieu, c'est pas du tout ça. Le don de crainte de Dieu, c'est quoi? Le don de crainte de Dieu, c'est tout simplement le don par lequel je crains d'offenser Dieu. Et donc, si je n'ai pas ce don de crainte de Dieu, ben, je vais offenser notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut demander cette crainte, mais qui n'est pas une crainte humaine. Allégoriquement, cette mer, ce lac agité, représente l'agitation de la mer ténébreuse du monde. Le barque est le symbole de la croix, à l'aide de laquelle les fidèles traversent les flots de cette mer du monde et parviennent au rivage de la céleste patrie. Les pères de l'Église ont beaucoup, beaucoup commenté cette image de la barque. L'Église est la barque du Christ. Le pilote, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et la barque doit traverser la mer de ce monde avec des tempêtes épouvantables, des tas d'ennemis de tous les côtés. Il faut passer de l'autre côté pour arriver au ciel. Il faut traverser la mer de ce monde. Et il y a des obstacles partout. Il n'y a pas simplement les ouragans, il y a aussi les récifs, il y a les pirates qui cherchent à monter sur la barque et éliminer la grâce sanctifiante pour qu'on soit encore plus perdu et balancer par-dessus bord tous les trésors de la barque. Il y a les courants, il y a tout ça. Eh bien, les pères d'Église expliquent justement que il faut simplement s'assurer que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours à la direction de la barque, même si on ne comprend pas très bien pourquoi il passe à tel endroit et pas à un autre. Nous, on voudrait qu'il passe à tel endroit. Notre Seigneur Jésus-Christ sait très bien qu'il y a des courants cachés ou des récifs cachés à tel endroit. Lui, il pousse la barque dans une direction opposée ou différente. On aurait l'impression aujourd'hui, quand on voit, humainement parlant, l'état de l'Église, on pourrait dire, mais qu'est-ce que fait notre Seigneur? Est-ce qu'il nous a oubliés? Non, il dort. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dort? Ben, posez-lui la question. Mais rappelez-vous que les apôtres ont été réprimandés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui va leur dire, mais où était donc votre foi? Pourquoi? Parce que les apôtres refusent de considérer que notre Seigneur Jésus-Christ est encore dans la barque, donc ils s'approchent de lui pour le réveiller, comme s'il n'était pas au courant. Ne vous rendez-vous pas compte, au maître, que nous périssons? Ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a l'ouragan qui est là, le vent souffle, les voiles sont déchirées, l'eau passe par-dessus bord. Qu'est-ce que vous faites? Nous périssons. Et notre Seigneur va leur faire ce reproche. Où est votre foi? Si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, eh bien, vous pourriez dire à cette montagne de passer de l'autre côté de la route, et elle passerait de l'autre côté de la route, hein. Donc pendant que les fidèles, disent les pères, font cette traversée pour aller jusqu'au port du ciel, c'est-à-dire pendant que les fidèles foulent au pied le monde et méditent dans leur cœur les douceurs du repos éternel, pendant que, poussés par le souffle de l'Esprit Saint et aussi par leurs propres efforts, ils rejettent à l'envi derrière eux les vanités inconstantes et perfides du monde, le Seigneur s'endort tout à coup. C'est-à-dire que le temps de la passion du Seigneur est arrivé et que la tempête vient fondre sur la terre parce que pendant le sommeil de la mort qu'il consent à subir sur la croix, les flots de la persécution se soulèvent sous l'impulsion du souffle des démons. Quelle phrase magnifique! Donc, cette sieste de notre Seigneur Jésus-Christ, disent les pères, qui dort au lieu de s'occuper de la barque, apparemment représente la passion. Pendant la passion, on a l'impression que notre Seigneur va cacher sa divinité. Il la cache, en fait, c'est vrai. Mais la divinité est toujours là, attention. Faut pas croire que à cause de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la divinité va disparaître. Même, c'est un des plus grands mystères de la foi catholique. En plein milieu de la passion, au moment des souffrances épouvantables du crucifiement, et bien notre Seigneur Jésus-Christ était toujours Dieu et avait toujours la vision béatifique en tant qu'homme. Homme, Dieu. Alors, en tant qu'homme, il souffrait tout en étant toujours uni par sa divinité avec la Sainte Trinité. À tel point que même lorsqu'il y a une séparation entre son corps et son âme, et que son corps est mené au tombeau, son âme est descendue aux enfers pour aller réconforter les âmes des fidèles qui attendaient depuis des milliers d'années dans l'enfer des patriarches, dans les limbes des patriarches, et bien son corps, toujours au tombeau pendant 36 heures jusqu'au matin de Pâques, est toujours uni à sa divinité. De même que son âme est unie à la divinité. Donc après avoir été témoin de sa mort, les disciples désirent vivement sa résurrection, dont le retard prolongé les exposerait à une perte certaine. Oui, par sa propre prompte résurrection d'entre les morts, le Christ a détruit l'orgueil du démon qui avait l'empire de la mort. Il calme l'agitation des flots, c'est-à-dire qu'en ressuscitant, il fait tomber la rage des Juifs qui insultaient à sa mort. Donc, comptons plus sur notre Seigneur Jésus-Christ que sur nous-mêmes. Que nous n'ayons pas, nous aussi, à subir ces reproches de notre Seigneur. Où est donc votre foi? Est-ce que je crois que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que je crois que son Église est divine? Est-ce que je crois que son Église est toujours divine, même si l'Église catholique semble être réduite aujourd'hui à une dimension domestique, comme disait le cardinal Pi? Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours le patron, attention. Bon, il a dit, à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi? Bon, il est certain que l'Église catholique, humainement parlant, elle est en bien mauvais état aujourd'hui, humainement parlant. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a d'autres idées sur la situation. Et il juge les choses comme Dieu et pas comme homme. C'est vrai qu'humainement parlant, souvent les gens me posent cette question, monsieur l'abbé, comment envisagez-vous aujourd'hui, en 2020, un retour à une situation normale au niveau de l'Église? J'envisage rien du tout. Parce qu'humainement parlant, il n'y a aucune solution. Humainement parlant, on est entouré d'ennemis partout. Le gouvernement persécute le catholicisme de façon maintenant éhontée. Bergoglio persécute le monde catholique partout. Il introduit l'islam partout en Europe. À quel point qu'on peut se demander si c'est pas sa volonté délibérée de détruire la foi catholique dans ce qui reste d'Europe chrétienne. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est quand même Dieu. Bon, bien sûr, c'est pas parce que Bergoglio détruit la foi catholique, c'est pas parce que l'Église catholique s'est réduite comme une peau de chagrin que ça veut dire que l'Église catholique est morte, parce que l'Église catholique a les promesses de la vie éternelle, attention. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Les forces du mal ne prévaudront point contre mon Église, il l'a dit, et cette phrase est toujours valable aujourd'hui plus que jamais. Donc il est impossible, note les pères, de traverser sans tentation le cours de cette vie, parce que la tentation est l'épreuve naturelle de la foi. Il est naturel, normal que la tentation nous éprouvât. Parce que nous sommes les fidèles disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fidèle disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui porte la croix. Et donc on a des tentations. Nous sommes donc exposés aux tempêtes, soulevées par les esprits mauvais, mais ayant soin, comme de vigilants matelots, d'éveiller le pilote de la barque qui ne cède pas au vent, mais qui leur commande. Et alors même qu'il est éveillé, prenons garde qu'il ne dorme encore pour nous, en punition du sommeil de notre corps. Donc ceux qui se laissent aller à la crainte dans la compagnie de Jésus-Christ méritent le juste reproche qu'il leur fait, car celui qui s'attache à lui ne peut périr. Donc, il ne faut pas faire des reproches à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ sait mieux que nous ce qu'il doit faire et ce qu'il peut faire. Voyons les versets 26 à 29, en bas de la page 20. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est en face de la Galilée. Et lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme qui était possédé du démon depuis longtemps déjà, qui ne portait pas de vêtements, qui ne demeurait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. Dès qu'il eut vu Jésus, il se prosterna devant lui, poussant un grand cri. Il dit, « Qu'y a-t-il entre vous et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je vous en conjure, ne me tourmentez pas. » Car il commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme. Il s'était en effet emparé de lui depuis longtemps, et quoi qu'on le gardât lié de chaînes et les fers aux pieds, il rompait ses liens et était entraîné par le démon dans les déserts. J'ai trouvé qu'une petite phrase du commentaire des pères, là, pour ce passage, page 21, au haut de la page. Le démon vit dans les tombeaux parce que les esprits impurs aiment les lieux sales, parce qu'ils se réjouissent de la mort des hommes, qu'ils cherchent à persuader les hommes que les morts sont transformés en démons. Donc l'orgueil fermait les yeux des démons qui refusaient de croire en l'incarnation. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, par son incarnation, va nettoyer ces lieux sales. Ces lieux sales représentent aussi l'âme, des âmes qui vivent dans le péché. Le péché est une saleté morale. Donc une âme qui vit dans le péché mortel, c'est une âme qui est spirituellement sale, qui sent mauvais. Alors demandons au bon Dieu justement qu'il nous aide à nettoyer notre âme pour que nous puissions justement suivre notre Seigneur Jésus-Christ et nettoyer notre âme en l'acceptant dans notre âme, en acceptant notre Seigneur dans mon âme. Et bien je vais évidemment nettoyer complètement mon âme. Voilà, donc on va arrêter là, puisque ça fait déjà une heure que je vous parle. Voilà, donc terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.